VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 5h en temps universel. Le président de Djibouti, Omar Guelleh, qui règne sans partage depuis 1999 sur ce pays de la Corne de l'Afrique, a tenu mercredi un dernier rassemblement électoral avant l'élection de demain vendredi, qui devrait être sa dernière. Dans ce scrutin, M. Guelleh, 73 ans, sera opposé à Zakaria Ismaël Farah, 56 ans, homme d'affaires spécialisé dans les produits de désinfection, fraîchement débarqué en politique. En l'absence des leaders historiques de l'opposition qui boycottent le scrutin, cet inconnu du grand public représente la seule alternative à Ismaël Omar Guelleh, figure incontestée du pouvoir qui a remporté avec plus de 75% des voix chaque présidentielle à laquelle il a participé. Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a donné mercredi son feu vert au retour en Côte d'Ivoire de son grand rival, l'ex-président Laurent Gbagbo, et de son ancien ministre Charles Blé Goudé, une semaine après leur acquittement définitif de crimes contre l'humanité par la justice internationale. Le chef de l'État ivoirien n'a pas évoqué la condamnation en Côte d'Ivoire de M. Gbagbo à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCAO, pendant les violences post-électorale de 2010-2011, mais Amadou Koulibaly, nouveau ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a laissé entendre que cette condamnation serait levée. Rwanda, 27 ans, jour pour jour après le début du génocide rwandais, hier, le 7 avril 1994, hier donc, la France a annoncé l'ouverture mercredi d'importantes archives sur le Rwanda relatives à la période 90-94, la commission présidée par l'historien Vincent Duclair a écarté l'hypothèse d'une complicité de génocide de la France dans le génocide, mais pointe des responsabilités institutionnelles auxquelles s'ajoutent des responsabilités intellectuelles qui, cumulées, font système et témoignent du moins d'une défaite de la pensée. L'Élysée espère que ce travail, fruit des travaux menés pendant 2 ans par 14 chercheurs, à la demande d'Emmanuel Macron, ainsi que l'ouverture des archives annoncées mercredi, contribuera à apaiser les relations entre Paris et Kigali. Les autorités tunisiennes ont annoncé mercredi soir le renforcement des mesures pour lutter contre la propagation du COVID-19, qui connaît une nette augmentation depuis la semaine dernière, entraînant une situation dangereuse dans le pays. Du 9 au 30 avril, les rassemblements privés et publics sont interdits et les gouverneurs sont appelés à décréter un couvre-feu nocturne de 19h à 5h locale. Un couvre-feu était déjà en vigueur de 22h à 5h locale. Un auto-confinement obligatoire de 5 jours sera imposé aux personnes venant de l'étranger qui devront aussi présenter à leur arrivée en Tunisie le résultat négatif d'un test fait 72 heures avant leur voyage, a ajouté la coordonnatrice du programme. Les ministres de la Santé de l'Union européenne ont échoué mercredi à convenir d'une direction commune sur l'utilisation du vaccin contre le coronavirus d'AstraZeneca, en dépit des appels en faveur d'une coordination entre les pays membres pour lutter contre la réticence des citoyens à recevoir le vaccin. Une réunion extraordinaire s'est tenue virtuellement en fin de journée après que l'Agence européenne des médicaments a revu ses conclusions sur le vaccin d'AstraZeneca, faisant état d'un possible lien entre le produit et de très rares cas de caillots sanguins atypiques. L'agence a toutefois réaffirmé que la balance bénéfice-risque du vaccin du laboratoire anglo-suédois restait largement positive. L'administration du président américain Joe Biden a annoncé mercredi qu'elle prévoyait de fournir 235 millions de dollars d'aide aux Palestiniens, rétablissant le financement américain à l'Agence des Nations Unies chargée d'aider les réfugiés et d'autres mesures supprimées par l'ancien président Donald Trump. L'ensemble de mesures humanitaires, économiques et d'aide au développement a été détaillé par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans le cadre des efforts de Washington pour réparer des liens avec les Palestiniens mis à mal sous la précédente administration. Joe Biden, entré en fonction le 20 janvier, avait promis de mettre fin au moins en partie à la politique menée par Donald Trump, perçue par les Palestiniens comme très favorable à Israël. Et puis, la Maison-Blanche a déclaré mercredi que les États-Unis ne discutaient pas de la possibilité d'organiser avec leurs partenaires un boycott commun des Jeux olympiques d'hiver 2022 prévus à Pékin en raison des violations des droits de l'homme dont Washington accuse la Chine. Le prochain journal, c'est dans 25 minutes avec Idrissa.